Midi 14h,
la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Et si vous êtes comme nous, dans votre salon, dans votre salle à manger, dressez l'oreille, car ce qui suit va probablement vous intéresser. Ce matin, Santé publique France a donné une estimation du nombre de nouveaux cas recensés par les généralistes. Il serait de 41 836 diagnostiqués par un médecin entre le 16 et le 22 mars. L'épidémie progresse, les hôpitaux commencent à être saturés, d'où l'importance des systèmes parallèles qui se mettent en place pour nous aider et nous soigner. On va en parler avec nos invités et avec Elisabeth Assayag qui est à mes côtés comme chaque jour. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous allez bien Raphaël? Vous avez une téléconsultation?
Bien sûr, mais c'est
très pratique.
C'est très pratique et on va voir que ça peut être utile, notamment pour désengorger les hôpitaux. On a vu que les établissements de santé étaient pris d'assaut dans cette guerre contre l'épidémie. Alors pour soulager le système et libérer des lits, certains ont des solutions. Bonjour Christophe Rousseau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Exolis. Votre start-up crée des solutions mobiles de santé, ce qui permet à des patients, par exemple, diagnostiqués, d'être suivis à distance s'ils n'ont pas de symptômes graves.
C'est exactement ça. Effectivement, donc on est aujourd'hui donc une start-up donc basée à Marseille, une quinzaine de personnes, et on travaille depuis pas mal d'années sur le suivi à distance par appli mobile, parce que ça permet vraiment déjà d'encourager l'ambulatoire et éviter que des patients restent à l'hôpital alors qu'ils pourraient être suivis à distance chez eux. Et là, dans le cadre du Covid, l'objectif principal des établissements aujourd'hui, c'est effectivement de libérer des lits. Et c'est aussi de permettre aux patients de rester dans une situation de confinement, notamment quand ils ne sont pas suffisamment graves et qu'ils ne doivent pas aller en hospitalisation complète. Donc concrètement, en gros, le patient télécharge une application, il reçoit tous les jours des questionnaires qui lui demandent un petit peu de suivre l'évolution de ses symptômes. Et les médecins sont connectés à une plateforme, enfin toutes les équipes soignantes sont connectées à une plateforme, mais ne sont alertés que si les critères qu'ils ont décidés sont importants. Ce qui fait que les patients qui vont bien, entre guillemets, ou qui ont juste une évolution de symptômes, on va dire, légère, finalement ne consomment pas du temps pour les soignants. Voilà.
Ça permet aussi de libérer des lits dans les hôpitaux, c'est-à-dire de ne pas engorger certains services et de faire rentrer aussi peut-être des patients qui sont sur la fin de l'épidémie.
C'est exactement ça, et je rajouterais même que ça permet également de se coordonner avec les médecins de ville, puisque les médecins de ville peuvent aussi avoir accès à cette plateforme, et donc ça permet de répartir finalement la charge de suivi entre les hospitaliers qui ont les cas les plus complexes et les médecins de ville qui ont le suivi le plus volumineux finalement depuis le passage, on va dire, en stade 3 de l'épidémie.
Elisabeth,
oui, vous disiez, vous suivez les patients tant que ce sont des personnes qui ont des symptômes bénins, mais on le voit avec ce virus, entre J7 et J10, ça peut basculer. Je sais que la mesure de l'oxygène est très importante. Comment on fait via une téléconsultation, comment on arrive à mesurer l'aspect bénin, l'aspect plus grave, à partir de quand vous dites, bon là on bascule, il faut aller plus loin?
Alors c'est chaque plateforme, chaque établissement en fait qui choisit ses critères.
Mais dans déjà, tous les cas, déjà c'est un problème ça. Si chacun a ses critères.
Alors en fait tout va dépendre finalement de la capacité que va avoir l'établissement à soit prendre en charge lui-même, soit rediriger vers la médecine de ville. C'est-à-dire les critères sont globalement les mêmes, mais c'est l'équipe qui prend en charge qui va varier en fonction des moyens.
En fonction locaux. De la capacité d'accueil, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Vous offrez d'ailleurs votre service de télésuivi aujourd'hui aux hôpitaux de manière totalement gratuite, c'est important de le signaler.
Alors oui, tout à fait. C'était pour nous important de. C'est une technologie qu'on travaille depuis quelques années, mais aujourd'hui, il était important qu'elle soit surtout mise en place rapidement, parce que là, les établissements sont dans une course contre la montre vis-à-vis de l'afflux de patients qui arrive de plus en plus. Donc voilà, c'était vraiment pour nous quelque chose d'important en termes de gestes, de pouvoir d'abord parler accès à la plateforme avant de parler évidemment financement.
Alors, vous restez avec nous. Il y a une autre initiative qui, finalement, va dans le même sens, aider. Hein. C'est celle de France Biotech. Bonjour, Franck Mouton.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le président de France Biotech et avec d'autres acteurs, France Digital, qu'on connaît bien, la MedTech, mais aussi des laboratoires. Vous avez mis au point la coalition Innovation Santé Crise Sanitaire. Objectif, là aussi, c'est de désengorger le système de soins.
Exactement, c'est de soulager le système de soins et surtout d'éviter aujourd'hui que les personnes les plus à risque, les plus fragiles, qui sont atteintes de maladies chroniques comme le diabète, certaines maladies pulmonaires, soient en rupture de soins dans les conditions actuelles de crise sanitaire. Et donc effectivement, et on a mis à peine une semaine pour monter cette coalition, donc France Biotech, France Digital, MedTech in France et AstraZeneca, qui sont les fondateurs et initiateurs. Et depuis, on est rejoint par une quarantaine d'acteurs publics et privés. Donc, ça a été extrêmement rapide. On a sécurisé près de 2 millions d'euros. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en commun les besoins. Donc, on fait remonter les besoins et on a l'avantage d'avoir l'assistance suivie des hôpitaux de Paris et des associations de patients comme France Asso Santé, les associations de pharmaciens également. Un certain nombre de médecins hospitaliers, médecins de ville qui participent directement à la task force qui a été initiée.
Donc cette plateforme, elle regroupe les initiatives, les projets qui vont dans le sens du suivi des patients, de la téléconsultation, tous les projets qui sont en train de naître et qui peuvent
en fait,
aider.
Ils mettent en relation les besoins de terrain. En face de ça, nous, la coalition, on identifie des innovations qui pourraient répondre directement à ces besoins. On les sélectionne, on les finance et pour leur développement et on les aide à implémenter le plus rapidement possible sur le terrain. Donc ça veut dire
vous,
que
vous avez un exemple précis à nous donner.
Là, en l'occurrence, on a eu déjà une centaine de projets qui sont remontés, une dizaine de remontées aussi de terrain, par exemple la pénurie des pousses seringues électriques dans les services d'urgence et dans les services de réanimation. Donc là-dessus, on a un certain nombre de projets qui arrivent pour permettre d'utiliser d'autres systèmes, du recyclage, du détournement provenant par exemple de la médecine vétérinaire ou d'autres systèmes qui pourraient être mis en œuvre très très rapidement. Donc c'est vraiment l'idée, hein, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, la première période va être de 4 semaines. Donc l'appel à projet est ouvert jusqu'au 24 avril. On va évidemment faire ça en continu. On a aussi tout ce qui est les mesures de constante que vous mentionniez juste avant sur, par exemple, les saturomètres. Vous avez mentionné, par exemple, qu'il y avait effectivement deux vagues dans le virus. Une première vague la première semaine et I7J10, ça peut considérablement se détériorer. Et là, par exemple, effectivement, c'est tous les dispositifs qui permettraient en ambulatoire de pouvoir mesurer, typiquement dans les innovations dans le monde du sport, ça peut très bien servir à mesurer la fréquence respiratoire. On est en train aussi de voir un certain nombre d'innovations qui sont amenées par les PME et les startups qui pourraient répondre effectivement à ces logiques de mesurer en ambulatoire pour pouvoir délester et ne prendre que ceux qui sont en train de s'aggraver. La logistique aussi, donc vous voyez, ça peut aller sur la connaissance du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux proches et dans la région. Ça aussi, c'est vraiment mettre
en relation. C'est important, effectivement, de fédérer toutes ces initiatives et de les trouver finalement tout au même endroit pour pouvoir accélérer, quoi, aller plus vite et les mettre plus vite à disposition de ceux qui en ont besoin.
Non seulement les initiatives, mais c'est surtout de faire remonter les besoins. Et ça, donc, l'assistance publique, on a des points réguliers avec eux pour pouvoir avoir ces remontées précises, qu'on puisse directement mettre en relation le besoin et l'offre, et que au milieu de ça, et les laboratoires, donc AstraZeneca, je l'ai mentionné, Novartis, Servier, Ipsen, Sanofi, GSK, UCB, Amgen, Takeda, Chugai et d'autres, ont participé financièrement pour aider. Donc ça a vraiment cette vertu-là de pouvoir faire en sorte que les projets soient, un, sélectionnés par rapport aux besoins immédiats, deux, de les financer pour s'il reste des développements ultimes à faire, trois, de les aider à être implémentés sur le terrain avec l'aide de ces personnes qui nous font remonter les besoins.
Oui, et aussi beaucoup de choses qui se font à distance, hein, dans le suivi des patients, dans la téléconsultation, vous le disiez.
Évidemment, c'est au centre aussi.
Elisabeth, justement, le recours à cette téléconsultation aujourd'hui, elle est totalement simplifiée.
Ah oui, on est obligé hein, finalement, parce que cette pratique est encadrée par la loi depuis 2010. On le voit, elle a été largement ouverte par le gouvernement depuis le début de la crise, avec des décrets qui lèvent les différentes restrictions. Il y a eu plusieurs arrêtés depuis le 9 mars. Le dernier a été publié le 24 mars au Journal officiel. Des mesures applicables jusqu'au 30 avril face à l'épidémie, parce que vous l'avez dit, l'objectif, c'est de limiter les risques d'infection, aussi bien dans les salles d'attente que dans le contact direct avec les professionnels de santé. Donc, le ministre de la Santé a ouvert les conditions de prise en charge de ces actes de télémédecine pour toutes les personnes qui sont exposées au virus. Vous pouvez avoir une téléconsultation avec un médecin qui n'est pas votre médecin traitant, même sans avoir eu une consultation physique avec lui les 12 derniers mois. Et concernant les actes de téléconsultation, même au-delà des personnes atteintes du coronavirus, hein, aujourd'hui, elles peuvent être réalisées si vous êtes enceinte, par des sages-femmes libérales. Et le dernier arrêté assouplit aussi les conditions de télésurveillance pour les patients insuffisants cardiaques. Hein, donc, secteur totalement élargi et simplifié.
C'est ce que vous voyez aussi, effectivement, aujourd'hui, Franck Mouton, Christophe Rousseau, se développer, justement, cet appel, ce besoin de consulter à distance.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a un historique assez important dans le télésuivi en cancérologie. Et aujourd'hui, typiquement, ce sont des prises en charge qui ne peuvent pas être arrêtées, hein, de patients qui sont toujours en situation de traitement ou de suivi post-radiothérapie ou chimiothérapie. Et aujourd'hui, là, on a eu énormément de demandes autour justement de la mise en place de la téléconsultation, puisque c'est un moyen quand même de continuer à garder le lien et de limiter les risques de faire venir les patients. Donc, effectivement, il y a pas mal de domaines, maladies chroniques également. Voilà, c'est des domaines où la téléconsultation, heureusement, devient primordiale. Et on espère que par la suite, ça va permettre aussi de la généraliser un peu
de
plus.
De la généraliser. Même constat de votre côté, Franck Mouton.
Oui, tout à fait. Effectivement, toute solution qui va permettre d'optimiser, c'est-à-dire le temps passé dans les systèmes hospitaliers, là où la nécessité est réellement avérée, est un vraiment point très important aujourd'hui. Et donc, ça veut dire effectivement téléconsultation, ça veut dire télémédecine, ça veut dire tout ce qui peut être mis à distance. Et faire en sorte surtout d'optimiser le fait que si ça doit rentrer dans les systèmes d'urgence et dans les systèmes de réanimation, ce soit le plus avéré possible. Donc effectivement, tous ces aspects-là, que ça rejoint les dispositifs médicaux, ça rejoint... Il y a aussi des pénuries, hein, donc il faut aussi savoir que des pénuries de tests diagnostiques aujourd'hui, le manque de réactifs, donc là aussi toutes les sociétés de biotechnologie peuvent apporter, donc ça va vraiment très loin hein, dans toute la partie besoins qui reviennent du terrain.
Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup Franck Mouton et Christophe Rousseau d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1, 13h18.
Europe 1, la France bouge, Raphaël Duchemin.
Beaucoup de personnes âgées ont besoin de soins à domicile. C'est le travail qui est généralement effectué par les infirmiers libéraux. Bonjour Jean-Christophe Klein.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le cofondateur de la plateforme Libéraux. Je précise que ça s'écrit Libheros, comme les héros, évidemment. Vous avez une interaction avec près de 12 000 infirmiers à domicile. Vous avez mis en place, vous, un système, justement, pour continuer à faire les soins, mais aussi détecter les personnes qui ont le Covid-19.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a chez Libéraux effectivement créé une communauté de maintenant plus de 12 000 professionnels de santé à domicile sur toute la France, majoritairement effectivement des infirmiers libéraux, donc qui sont aujourd'hui en première ligne hein, sur la gestion de cette situation du Covid. Effectivement, c'est des personnes pour qui il faut apporter une solution aujourd'hui pour continuer la prise en charge des patients déjà aussi atteints de maladies chroniques qu'il faut continuer à suivre, continuer à soigner et puis apporter aussi des solutions pour que ces infirmiers puissent prendre en charge les patients atteints du Covid.
Alors comment vous avez fait justement pour séparer, hein, pour dire d'un côté on prend en charge les patients atteints du coronavirus et puis de l'autre on continue à finalement faire ce qu'on faisait tous les jours, c'est-à-dire aller soigner les patients qu'on a l'habitude de voir?
Alors, la manière dont on a fait ça, faut savoir qu'aujourd'hui, les cabinets infirmiers libéraux sur toute la France s'organisent aussi beaucoup eux-mêmes sur comment ils organisent la gestion de leurs tournées, en fonction de tournées avec peut-être que des patients atteints ou suspectés Covid et d'autres tournées de patients qui n'ont pas les symptômes, justement pour éviter tout risque de contamination possible. Nous, la manière dont on a géré ça chez Libéraux, c'est que pour les plus de 12 000 professionnels de santé qui utilisent du coup notre application mobile, on a mis un type de soin en plus, on a posé la question en plus de savoir est-ce qu'ils prennent ces patients-là en charge, oui ou non. Et surtout, de l'autre côté, pour les personnes qui font appel à nous, donc pour des demandes de prise en charge pour des soins à domicile, que ce soit les patients, les proches aidants, mais également, par exemple, les établissements de santé, on a créé des catégories spécifiques de soins, de demandes de prise en charge, que ce soit pour du suivi à domicile de patients atteints ou suspectés Covid, ou pour un nouvel acte qui est sorti très récemment sur le télésoin et le télésuivi de ces infirmiers pour ces patients-là.
Alors justement, puisque vous en parlez, on peut trouver des infirmiers disponibles pour faire une téléconsultation. Il y a quoi, par exemple, comme soin qu'on peut faire à distance, en téléconsultation, quand on est infirmier libéral ?
Alors, il faut savoir aujourd'hui que les infirmiers libéraux pouvaient déjà, depuis le 1er janvier 2020, coter un acte qui s'appelle d'aide à la téléconsultation. Donc, ces infirmiers pouvaient aider, par exemple, des personnes un petit peu plus âgées ou en perte d'autonomie, enfin, des personnes qui sont, par exemple, pas adeptes du digital. Donc, aider ces personnes-là à faire une téléconsultation avec un médecin. Donc, ça, c'est quelque chose qui existait déjà depuis le début d'année. Et la vraie nouveauté qui est, du coup, sortie lors du décret la semaine passée, c'est ces infirmiers qui peuvent faire du télésuivi des symptômes, de l'évolution des symptômes des patients qui ont été diagnostiqués Covid-19. Donc, une fois que ce patient-là a consulté un médecin, le médecin va pouvoir faire une prescription de télésoins, de télésuivi par un infirmier. Donc, ça va être l'évolution des symptômes, suivi de la température, enfin, voilà, de savoir en tout cas comment ça se passe et accompagner le patient dans cette situation.
Oui, on voit, Elisabeth, au fil des interventions, qu'effectivement, oui, c'est un secteur qui était balbutiant, mais c'est en train de changer.
Bah là, il est obligé d'être dopé. Hein. Le ministre de la Santé l'a dit, hein. Chaque patient pourra avoir accès à une téléconsultation quand il en aura besoin. Il n'y a pas plus clair. Hein. Et les start-up participent en ce moment à cette mission de distanciation sociale, hein, parce qu'on est dans une... il faut garder cette distance, tant pour le patient que pour le médecin, hein, à l'occasion de cette crise inédite et historique. Et d'ailleurs, la Société française de santé digitale, la SFSD, propose un numéro d'appel pour les professionnels de santé qui souhaitent mettre en place la téléconsultation dans le cadre du Covid-19. Je vous donne ce numéro, hein, pour bien les sûr. Professionnels qui souhaitent peut-être mettre en place la téléconsultation. C'est le 06 19 55 85 53. 06 19 55 85 53 pour tous les professionnels de santé qui souhaitent mettre en place la téléconsultation.
Alors, vous restez avec nous, bien sûr, et on va continuer à parler du rôle des infirmiers. On part dans le Gard, où des soignants ont créé une plateforme citoyenne Covid-19. Bonjour, Arnaud Renevet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même infirmier libéral à Villeneuve-les-Avignon. Oui, c'est une démarche qui est née comment ? Racontez-moi.
Alors, elle est née, en fait, il y a environ pas très longtemps, donc il y a une semaine à peu près, une semaine et demie, où avec donc un petit collectif dont ma sœur fait partie, qui est infirmière libérale également, une amie qui est médecin anesthésiste, et puis une autre amie qui est le docteur Monique Nouvel. Donc, mon amie anesthésiste, c'est le docteur Marjorie Meyer. Le docteur Monique Nouvel, elle est une médecin radiologue. En fait, elle a créé une CPTS qui s'appelle CPTS Grand Angle, et donc qui réunit un petit peu les professionnels de santé autour du secteur où nous exerçons. Et donc suite à ça, en fait, ça nous a permis, en fait, sur un constat simple, c'est qu'on s'est rendu compte donc qu'il y avait un souci de prévention et de gestion du risque sanitaire qui était en rapport avec cette crise qu'on est en train de vivre. On s'est rendu compte que les médecins libéraux, pour eux, la situation était aussi inédite et que il y avait une modification un petit peu de la patientèle dans leur cabinet, et que face à cette montée, malheureusement, qui était inexorable, il y avait pas mal de corps de métier au niveau du corps soignant, en fait, qui se retrouvaient un petit peu. Donc nous, il y avait un petit manque, je trouvais, moi, de communication entre les différents corps soignants.
Et donc l'idée, c'était de vous regrouper pour une meilleure communication et pour faire face de manière plus unie à cette crise.
Dans un premier temps, en fait, on a créé un réseau de communication territoriale des soignants, en fait, sur notre secteur. Donc c'est un bassin de population qu'on a un petit peu ouvert autour de chez nous et qui est d'environ 70 000 habitants. Donc ce réseau, on l'a appelé Réseau Santé Ville Pro. On a utilisé la plateforme WhatsApp, en fait, pour pouvoir l'utiliser. Et on a déjà mis dans un premier temps en relation médecins, infirmiers, pharmaciens, aides-soignants, c'est un petit peu toutes les personnes qui pourraient être acteurs en fait de la prise en charge de cette crise sanitaire sur notre secteur. Donc nous, c'est vraiment très très localisé. Je précise qu'on est vraiment dans une démarche qui est citoyenne et bénévole complètement. Et au niveau des...
Oui, justement, vous le précisez, ça va marcher comment? Il y a des médecins qui pourront confiner, qui pourront confier à des soignants bénévoles un groupe de patients, c'est ça l'idée avec un médecin référent?
Dans l'idée, en fait, c'est qu'on a voulu absolument pas se substituer ni aux 15, ni donc aux services d'urgence, ni aux médecins traitants. Donc nous, en fait, on s'est positionné à un niveau qui est de faire le lien, le pivot, en fait, entre un patient qui contacte son médecin traitant, qui présente des signes Covid, donc qui peut être suspect, mais qui est peut-être pas forcément testé au jour d'aujourd'hui. Le médecin traitant, en fait, fait le choix d'établir une fiche patient et de nous la communiquer. Et en fait, le réseau Ville Santé, en fait, va mettre en lien, en fait, un bénévole soignant, et ça, c'est un constat qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pas mal de soignants, notamment les kinés, qui sont aujourd'hui en stand-by au niveau de leur activité, parce que la démarche d'aller au chevet du patient pour des soins est un petit peu aujourd'hui mis en retrait par rapport à la situation. Et donc, ces gens-là, en fait, se sont naturellement proposés en nous demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider. Et donc l'idée est un petit peu née comme ça, en se disant bah, c'est des personnes qui sont capables de repérer des signes cliniques, qui ont une écoute relativement en rapport avec leur métier fait qu'ils ont une écoute qui est adaptée, on va dire, à ce type de patient, et notamment des kinés respi. Et donc ces personnes-là, en fait, vont faire le lien entre le médecin traitant et le patient en prenant des nouvelles du patient, donc qui est surveillé en télésurveillance à raison de 1 à 2 fois par jour selon l'état, et en faisant un compte rendu au médecin 1 à 2 fois par jour selon le choix du médecin.
Oui, on voit Arnaud, Jean-Christophe, que les choses sont en train de se mettre en place. Hein, finalement, les soignants savent faire, donc ils ont les bonnes initiatives. Hein. C'est aussi votre cas, Jean-Christophe Klein.
Oui, tout à fait. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place actuellement. Donc on voit que les choses bougent, on voit qu'on est capable de faire de belles choses. Et je pense que surtout, on voit que le lien qu'on peut créer entre les professionnels de santé de ville, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers ou autres professionnels, tous sont hyper indispensables dans la meilleure prise en charge possible des patients. Que ce soit, encore une fois, les patients diagnostiqués Covid ou tous les autres patients qui ont des maladies chroniques, qu'il faut continuer de suivre et leur apporter le meilleur accompagnement possible.
Elisabeth, je voudrais qu'on donne effectivement à nos auditeurs sur Europe 1 les plateformes habituelles, hein, les plus connues en tout cas, qui font de la téléconsultation.
Oui, alors il y a Doctolib, hein, évidemment, hein, Doctolib qui existe depuis 2013, dont l'abonnement est gratuit en mars et en avril pour tous les médecins équipés du logiciel. Vous avez aussi HelloCare qui est offert en ce moment aux médecins pendant l'épidémie. Doc Avenue, filiale de CGDIM avec Mon Doc, Docteur Sécu, Médecin Direct. Voilà. Et vous pouvez aussi utiliser des outils de communication vidéo comme Skype ou FaceTime. Peu importe la plateforme choisie, après la prise de rendez-vous, le médecin vous envoie la consultation. Enfin, le lien pour la consultation, pour qu'ils se connectent à l'heure prévue. La feuille de soins est émise et le médecin peut établir une prescription transmise par mail. La prise en charge est à 100% depuis le 21 mars et pendant toute la durée de l'épidémie.
Merci Elisabeth pour ces précisions. Merci messieurs d'avoir été avec nous. La France Bouge continue et s'il y a une activité qui est en plein essor, c'est le développement des bornes de télémédecine, un soutien précieux en pleine crise sanitaire.
Europe 1, la France Bouge. Raphaël Duchemin.
Appeler le 15, se déplacer aux urgences, vous le savez, hein, c'est vraiment, vraiment quand on est en situation d'urgence, quand on a des symptômes graves, on ne le dira jamais assez. Mais il y a aussi tous ceux qui pensent peut-être avoir le coronavirus, mais qui n'en sont pas sûrs et qui ne savent pas vraiment comment pouvoir vérifier. Une solution est là, c'est la consultation de télémédecine. Bonjour Jordan Cohen.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Tessan, on dit Tessan ou Tessane ?
Tessane.
Tessane, T-E-2-S-A-N-E, c'est ça ?
Sans E.
Oui, sans E, donc on prononce avec le E, mais c'est sans E. Votre entreprise commercialise des cabines et des bornes de télémédecine. Depuis le début de la crise, je crois que vous enregistrez de nombreuses demandes, entre 2 et 5 installations par semaine.
Exactement, donc on fait des cabines et des bornes de télémédecine. Donc c'est des cabines et des bornes qui ont 7 dispositifs médicaux connectés, qu'on installe dans les pharmacies et les mairies. Et on est en très forte croissance, que ce soit en termes de commercialisation, puisque là, on est en train d'installer 3 à 5 et chaque jour, on va dire ça augmente, 3 à 5 par semaine. Et on a aussi eu 50% de plus de téléconsultations au sein de ces cabines et ces bornes, principalement dans les pharmacies d'ailleurs.
Oui, c'est une solution, effectivement, aller dans sa pharmacie pour connaître son état de santé. On est en plus dans un environnement qui est propice à ça, puisqu'on peut toujours se tourner, si on ne sait pas vraiment manipuler, vers la pharmacienne.
Exactement. Donc, ce qui est bien, c'est que nous, avec les 7 dispositifs médicaux, enfin, 4 d'entre eux en tout cas, on peut dépister des suspicions justement du Covid-19. On peut aussi permettre aux patients d'avoir accès à un médecin pour d'autres pathologies ou pour des maladies chroniques. Et on a, on va dire, un temps d'attente qui est inférieur à 15 minutes. En ce moment, on a même doublé les médecins. Donc, on a un temps d'attente qui est inférieur à 7 minutes afin de répondre au mieux à la demande.
Et alors, on est en lien direct avec un généraliste, c'est ça? On a tout l'outillage qui est à l'intérieur de la télécabine, le stéthoscope, on peut se prendre la tension.
Exactement. Voilà, exactement. Donc, en fait, le patient, il rentre, il s'inscrit, il met ses informations et en moins de 15 minutes, il a accès en visio, donc en vidéo, en temps réel, à un médecin qui, lui, a accès aux dispositifs médicaux et a accès aux données médicales. Donc, tout est télétransmis en temps réel. Et donc, à la fin de la consultation, on peut déterminer un diagnostic. Et donc, le patient peut aussi être assisté par le pharmacien puisque la cabine, elle est de place. Et bien évidemment, le pharmacien nettoie tous les dispositifs et s'occupe de toute l'hygiène de la cabine afin qu'il n'y ait pas de risque.
Alors justement, quand on est en téléconsultation, il y a pas mal de questions qui se posent, Elisabeth. Hein. Je crois qu'on en a une d'ailleurs.
Oui, tout à fait. On a reçu une question de Marc, Marco 91300 sur Twitter, qui nous pose cette question. Pendant ces moments difficiles, comment se prémunir des éventuels charlatans autour de la téléconsultation? C'est une question intéressante parce qu'il y en a plein qui sont en train de se dire « médecin en ce moment ».
Alors, comment on sait qu'on a bien un médecin
en ligne, un vrai médecin
de l'autre côté, que c'est pas un charlatan, que c'est pas quelqu'un qui s'est improvisé médecin?
Alors, moi, je suggère de passer par les plateformes, on va dire, les principales plateformes en ligne, hein, donc mes principaux concurrents. C'est vrai qu'il y a plein de fausses pubs que j'ai pu voir sur Instagram ou Facebook, où on demande justement de payer et d'avoir accès à un médecin. Souvent, à la fin, on n'a pas accès à un médecin ou c'est pas du tout un médecin français. Donc je préconise bien sûr de rester avec nous, hein, Tessane, parce qu'en plus, on est en train de développer notre plateforme web pour toutes les pharmacies et cela gratuitement, mais aussi avec les principaux concurrents qu'on peut voir et qui sont là depuis plusieurs mois ou plusieurs années.
Oui, et là, pour le coup, il y a une vérification qui est faite sur les gens qui sont appelés.
Exactement. Et d'ailleurs, il y a eu un listing du gouvernement sur les différentes plateformes et solutions de télémédecine, avec justement un peu des tests et différentes notes. Donc ça permet de certifier un minimum déjà les différents outils et plateformes de télémédecine.
Alors vous restez avec nous. Téléconsulter, c'est aussi important en ces périodes. On ne le dit peut-être pas assez pour nos enfants qui vivent la crise et le confinement avec nous. Bonjour Fanny Renoux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Doudou Care, plateforme en pédiatrie. C'est vrai qu'on sait que les enfants sont des vecteurs de transmission, mais qu'eux ne développent pas de symptômes. Néanmoins, ils vivent cette crise sanitaire avec nous. Et je crois que vous recevez, vous, de nombreux appels, justement, sur la plateforme.
Alors, oui. Nous, déjà, en fait, on fait du téléconseil. C'est-à-dire que depuis 2016, on conseille les parents sur toutes leurs questions de santé du quotidien. Donc forcément, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il faut répondre aux questions qui sont liées directement au coronavirus, et on en a beaucoup, que ça soit sur la femme enceinte ou aussi sur les différents âges des enfants, mais aussi on répond aux questions de la vie quotidienne pour lesquelles les parents ont encore plus de difficultés à accéder à un professionnel de santé. Par exemple, tout ce qui est pour les jeunes parents, l'allaitement difficile. Voilà, les parents sont un petit peu isolés, n'ont plus forcément l'aide dont ils ont besoin. Donc, on a beaucoup de questions sur l'allaitement, sur la détection aussi des signes de mal-être chez l'enfant. Est-ce qu'on doit consulter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis aussi, vous savez, toutes ces séances en fait qui sont organisées dans le quotidien, comme les séances d'orthophonie, elles sont reportées aujourd'hui. Et comment, en tant que parent, si j'ai un enfant dyslexique ou autre, je peux continuer à aider mon enfant?
Donc vous avez les réponses, vous arrivez à rassurer effectivement les parents sur toutes les questions qu'ils peuvent se poser, parce que effectivement, le quotidien de tout le monde est chamboulé.
C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, nous, on s'est doté depuis plusieurs années maintenant d'une pluridisciplinarité de professionnels. Donc, on a des infirmières puéricultrices, on a aussi des psychologues, des kinés, des ostéopathes, des orthophonistes. Et donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, on agit sur deux pans. Un, c'est d'essayer de maintenir et d'aider les parents dans leur vie quotidienne pour qu'elle soit la moins chamboulée possible. Et deux, de vraiment répondre à leurs questions liées au Covid. En non seulement transmettant les dernières données scientifiques qu'on a en notre possession, mais aussi en répondant vraiment à des questions d'ordre pratique. C'est aussi comment je peux aider mon enfant avec l'école à la maison, comment je peux parler du coronavirus à mon enfant. Voilà, le champ des questions est très très large en fait.
Alors c'est vrai que le champ des questions est large et il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est tout cet aspect psychologique qui est capital dans ce type de période. C'est la raison pour laquelle l'association Thérapsy a mis en place un numéro vert. Bonjour Nora Abed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce numéro c'est le 0805 383 922, 0805 383 922. C'est important parce que vous proposez là, vous, un soutien psychologique et vous dites on est étonné par le nombre important d'appels de soignants.
Oui, tout à fait. Nous avions décidé de manière collégiale au premier jour, c'est-à-dire le lundi 16, on a fait une réunion, comme beaucoup de structures, d'associations, pour répondre et pour savoir, en fin de compte, comment nous allions pouvoir gérer nos patients. Et tout de suite, nous avons pu imaginer ce numéro vert pour pouvoir répondre justement à toutes ces questions pour les personnes les plus vulnérables.
Vous avez en plus des consultations qui sont gratuites, hein, faut le dire, et vous avez des gens qui peuvent parler en anglais, en arabe, ce tout qui permet fait. Aussi de, oui. de dire beaucoup plus de choses finalement, d'avoir un public encore plus élargi.
Oui, c'est ce qu'on appelle avoir accès à une population invisible. Ceux qui, par leurs difficultés, leurs problématiques langagières ou autres, ne peuvent pas avoir accès au droit commun ou à des dispositifs qui n'engagent effectivement qu'une communication par la langue française. Le fait que nous soyons des psychologues et des bénévoles, parce que je tiens à dire qu'on a quand même aujourd'hui 27 bénévoles qui nous ont rejoints, hein, qui sont dans toute la France, dont 4 psychiatres, et chacun a des compétences diverses et variées, dont la faculté de pouvoir parler différentes langues.
Elisabeth ?
Oui, oui, vous disiez il y a beaucoup de soignants qui vous appellent hein, depuis le 16 mars. Quelles sont les interrogations qui reviennent le plus ? C'est quoi ? C'est la soudaineté de la crise ? C'est quoi ? C'est leur quotidien ? Qu'est-ce qui revient le plus ?
Oui, oui. Surtout pour les soignants qui sont isolés. Je pense aux infirmiers libéraux qui vont à domicile.
Il est seul.
Pardon ?
Il rentre chez lui le soir et là, il se retrouve seul face à lui-même.
Oui, alors il y a ça. Et puis surtout, toutes les personnes qu'il a rencontrées et dont il a été le seul interlocuteur durant toute la journée. Donc porter ça, plus d'autres responsabilités techniques de sa profession, effectivement, ça crée une brèche et des fragilités encore plus importantes. Et le retour au front, hein, n'oublions pas aujourd'hui la terminologie de guerre hein, qui a été employée au niveau par le président de la République. Moi, je dis que face à ce mot guerre, il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se mettre en place, c'est l'alliance. Parce que pour combattre une guerre, il faut l'alliance. Et aujourd'hui, l'alliance des professionnels de la santé, à tout niveau, et moi je parle aussi de la santé mentale, est considérable et je pense aura une plus-value pour pouvoir gérer aujourd'hui déjà les difficultés actuelles, des décompensations, des fragilités qui se donnent à voir.
Et gérer l'après aussi, ça va être important.
C'est ce que j'allais dire. L'après, sur lequel nous n'avons pas de visibilité, mais sur lequel nous pouvons largement imaginer quelque chose d'une ampleur assez considérable.
Oui, on voit naître cette unité et cette solidarité. C'est vrai que ça nous fait du bien aussi. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on va voir que tous les corps de métier se mobilisent. On va s'intéresser à la kiné, mais aussi au gastro. Vous allez voir que chaque spécialité met sa pierre à l'édifice.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et vous le savez, aujourd'hui, on s'intéresse à la télémédecine, à ces consultations par Internet, à ces nouveaux moyens qui se mettent en place aussi pour faire face à vos soins du quotidien, faire face à cette crise sanitaire du coronavirus. Et vous allez voir que tout le monde est concerné. Bonjour, professeur Gilles Kemoun.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Neuradom. Et alors vous avez développé un service d'auto-rééducation, c'est-à-dire de suivi à distance par le thérapeute avec une caméra pour qu'on puisse continuer à faire tous les exercices finalement de rééducation.
Oui, tout à fait. Ce service que nous développons depuis 4 ans et demi est venu du constat que aujourd'hui on a beaucoup de difficultés pour beaucoup de patients à constituer des parcours de rééducation sans rupture et leur offrir une rééducation qui soit suffisamment prolongée et suffisamment intensive pour récupérer le maximum d'autonomie possible. Or, la littérature scientifique montre que les outils digitaux peuvent être un complément tout à fait efficace dans cette rééducation. Et donc, on s'est dit que remplir les trous dans la raquette, il fallait permettre aux gens de travailler chez eux, mais dans les mêmes conditions que dans un cabinet ou un centre de rééducation, c'est-à-dire accompagnés et sous supervision. C'est pour ça qu'on a mis au point ce dispositif, qui concrètement est un écran, effectivement, comme vous le disiez, qu'on installe à domicile par un professionnel de la santé à domicile, avec un capteur qui va permettre aux patients d'interagir avec l'écran. Le kiné, son kiné ou son professionnel de rééducation reçoit un lien sécurisé qui lui permet d'avoir accès à notre bibliothèque d'exercices qui a été constituée à partir de l'état de l'art de la rééducation. Et le professionnel constitue la séquence adaptée à son patient et le patient va pouvoir travailler autant de fois qu'il veut et quand il le peut. Tout ce qu'il fait revient chez le professionnel qui, lui, peut avoir un regard à distance sur la qualité du travail et moduler ainsi la séquence.
Oui, il y a des échanges directs aussi qui peuvent être faits avec le professionnel, avec le kiné.
Alors,
par exemple.
Jusqu'à aujourd'hui, l'échange était asynchrone pour répondre aux contraintes des professionnels de santé qui n'ont déjà pas beaucoup de temps dans leur cabinet pour voir tous les patients et donc on ne voulait pas leur rajouter cette charge supplémentaire de l'obligation d'être devant un écran. Mais la crise actuelle nous a fait travailler de façon un petit peu différente et depuis 10 jours, on a changé un petit peu notre façon de faire pour pouvoir rentrer dans toutes les contraintes liées au confinement et liées aux barrières, la nécessité d'avoir des barrières de protection. Sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que on a développé un système de visio qu'on a intégré dans une application complémentaire de notre système qui permet d'avoir cet échange direct qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait de contact lors de l'installation du dispositif avec quelqu'un de l'extérieur. Et donc, on a modifié notre matériel pour que le matériel puisse arriver par la poste chez le patient et qu'il puisse être installé soit par le patient s'il en a les capacités, soit par un proche avec une aide en ligne.
Oui, c'est vrai que ça va changer pas mal de choses. Vous restez en ligne avec nous. Je voudrais qu'on accueille Étienne Gardéa, qui est le fondateur de iNeed. Bonjour Étienne.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous dites, pendant la durée de la pandémie, iNeed met gratuitement ses services à disposition pour tous les professionnels de santé pour venir aider les patients en santé visuelle. On parlait dans le journal tout à l'heure avec Pierre des problèmes de lunettes, hein, les gens qui cassent leurs lunettes, les gens qui ont besoin de les refaire. L'opticien aujourd'hui n'est pas considéré comme une nécessité et pourtant ça va le devenir.
Oui, tout à fait. En fait, donc iNeed, et c'est la plateforme qu'on a créée il y a 2 ans, qui avait pour but d'améliorer l'accès aux soins pour tous en santé visuelle, hein, c'est notre proposition de valeur. Mais actuellement, le défi du fait de la crise sanitaire nous oblige à pivoter et à essayer d'assurer une permanence des soins pour les patients qui étaient traités et qui ont besoin d'un suivi régulier, pour gérer les urgences, voilà, et surtout pour apporter notre aide à tous les gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes, les pharmaciens, les hôpitaux et les opticiens qui ont aussi un rôle à jouer.
Donc aujourd'hui, on peut se connecter gratuitement et avoir son suivi ophtalmologique.
Voilà, c'est ça. En fait, ce que nous, on propose, c'est la création d'une sorte de grand réseau collaboratif, d'accord, qu'on appelle un petit peu une sorte d'hôpital digital dédié à la vue, qui intègre donc les ophtalmos, les orthoptistes, les opticiens, les médecins généralistes, les pharmaciens, et on les relie tous par un outil digital commun. D'accord. Et donc le patient, en se connectant, va jouer une sorte de pré-consultation sur Internet qui va l'orienter vers le, le professionnel le plus adapté et le plus proche. Hein. Ça peut être un opticien si les lunettes sont cassées, par exemple. Et on est en discussion avec les syndicats qui ont mis en place, d'opticiens qui ont mis en place actuellement une sorte de premier recours chez certains opticiens. Ça peut être un pharmacien si des yeux sont légèrement rouges, voire évidemment les urgences d'un hôpital. Et on est en train de travailler avec l'hôpital des 15-20 à Paris, justement pour les aider à gérer un peu les urgences. Et tous ces professionnels, en fait, sont connectés entre eux. C'est ça, en fait, notre deuxième grande brique. C'est que tous les pros sont reliés entre eux pour faire de la télé-expertise. Ils ont aussi accès à une messagerie sécurisée et pour communiquer entre eux.
Vous restez aussi avec nous parce que nous sommes aussi en ligne avec le docteur William Berrebi. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Merci d'être là. Vous êtes gastro-entérologue et vous avez mis en place un live Instagram pour aider les patients. Racontez-moi, comment ça se passe ?
Oui, c'est ça. Depuis janvier 2020, en fait, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Dr William Berrebi, qui est la première chaîne consacrée aux pathologies digestives. Et alors, cette pandémie de Covid-19 pose plusieurs problèmes, puisque le nombre exponentiel de cas, bien sûr, la mortalité, bien sûr, mais aussi le problème d'accès aux soins, puisque les hôpitaux sont saturés, notamment les urgences, mais aussi les établissements privés, puisqu'on a arrêté toute activité dans les établissements privés pour libérer les lits pour les patients infectés. Donc je me suis dit, comment je peux aider la population française pour se soigner pendant cette période de confinement et cette difficulté d'accès aux soins. Il faut savoir que tous les gastro-entérologues ont annulé leurs consultations et donc il m'a paru essentiel de pouvoir, d'une certaine manière, aider les patients pour qu'ils ne se sentent pas finalement abandonnés en quelque sorte.
Donc depuis hier, vous faites des stories qui s'appellent Merci Docteur, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc mon compte, c'est Merci Docteur, c'est le nom de mon podcast, en fait, historiquement, qui a quelques mois. Et donc l'idée, c'est sur Instagram, tous les mercredis de 18 à 20 heures, donc hier c'était effectivement la première fois, les patients peuvent librement poser toutes leurs questions sur leurs problèmes digestifs et même sur d'autres problèmes, puisque moi je suis gastro-entérologue, mais j'ai aussi une formation d'interniste, donc de médecine interne. Donc voilà, donc l'idée c'est que ces questions-réponses en story permettent de régler en quelque sorte un certain nombre de problèmes et de pouvoir déterminer si un patient a éventuellement besoin de basculer vers justement une téléconsultation avec son gastro-entérologue habituel si le besoin s'en fait sentir.
C'est vrai que c'est important. Je voudrais qu'on dise un mot, Elisabeth, aussi des femmes enceintes qui sont infectées par le coronavirus. Quelle technique, là, pour le coup, en téléconsultation ?
Alors, d'abord, le Haut Conseil de la Santé publique considère que les formes graves d'infection sont risquées au troisième trimestre pour les femmes enceintes. Et le Syndicat national des gynécologues et obstétriciens français recommande aux femmes enceintes qui ont des rendez-vous prévus de longue date d'appeler d'abord leur médecin avant de venir. Et là aussi, surtout, de privilégier la téléconsultation quand elle est possible. En cas de symptômes classiques, elle doit aussi privilégier la téléconsultation. Donc, pour les femmes enceintes, c'est être en lien permanent avec son médecin, son obstétricien, et c'est lui qui va indiquer la conduite à tenir et être isolé le maximum, le plus possible.
Voilà ce qu'on pouvait vous donner hein, comme nouvelle clé finalement pour vous aider à vaincre, à traverser cette crise du coronavirus et à continuer à vous soigner bien sûr. Merci messieurs d'avoir été avec nous, William Berrebi, gastro-entérologue, mais également le professeur Gilles Kemoun, fondateur de Neuradom, et pour iNeed, Étienne Gardéa, fondateur de iNeed. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on attend vos appels, l'avocat d'Europe 1 est là pour vous répondre. À tout de suite, 3921 et le hashtag Radio Ouverte.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
C'est l'heure de poser vos questions à notre avocat, l'avocat d'Europe 1, c'est Roland Pérez qui est avec nous. Bonjour Roland.
Bonjour Raphaël.
Alors on a évidemment tout un tas de questions à vous poser, on va peut-être commencer par celle de Pierre qu'on écoute ensemble.
J'ai 79 ans, ma vue n'est plus ce qu'elle était, mon écriture est plus ou moins tremblante, et puis sur l'attestation dérogatoire à la nouvelle, il est marqué la chose suivante, c'est que cette feuille doit être remplie tous les jours au moins deux fois pour promener mon chien, donc il faut donc une copie, une attestation pour le matin, une attestation pour l'après-midi, et si je fais des courses, il faudrait peut-être une troisième.
Bon, alors quels sont les recours de Pierre qui manifestement a la vue qui baisse ?
79 ans.
Oui, alors pour Pierre, la réponse est que déjà, s'il peut au moins aller sur un site qui est réservé justement aux malvoyants, qui est handicap.fr, vous avez ce qu'on appelle des accès pour ceux qui bénéficient des systèmes de FAIC, c'est-à-dire facile à lire et à comprendre, FALC, et c'est des attestations qui peuvent être cette fois-ci imprimées ou téléchargées assez facilement et qui sont précisément destinées, ces attestations dérogatoires sont précisément destinées aux malvoyants. Maintenant, j'ai envie de vous dire que véritablement les contrôles qui vont être faits sont faits de façon tout à fait de bon sens, c'est-à-dire que s'il a sa carte d'handicapé avec lui, s'il explique qu'il est malvoyant et qu'il ne peut pas réécrire à chaque fois cette attestation, qu'il n'a pu réécrire que l'heure et le jour sans pouvoir préciser autre chose que le besoin d'aller faire ses courses, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. Oui, ils vont véritablement pas le verbaliser. Enfin, aujourd'hui, l'heure n'est pas la sanction gratuite.
Il peut aussi éventuellement demander à un voisin de la lui écrire et de la glisser sous la porte pour qu'il n'ait plus qu'à la signer. Autre question, Roland, c'est Daniel qui vous la pose.
J'entends que l'on fait un appel aux dons, c'est très bien. J'aimerais savoir si l'argent qui sera récolté des amendes que l'on met pour les gens non respectueux pourrait être versé justement à l'Institut Pasteur.
Question de Daniel posée au 39-21, oui, Roland.
Oui, alors il a été question, hein, il est question de toute façon que cet argent soit reversé, mais le président Macron l'avait évoqué. Il y a même une pétition qui circule actuellement pour que la totalité de l'argent perçu par l'État dans le cadre de ces amendes soit reversée au système de santé, pour évidemment l'aider dans son fonctionnement de crise actuelle, mais aussi pour le soutenir dans le futur. Donc je pense que c'est ce qui va être fait. On n'a pas d'annonce encore officielle là-dessus, même si le président Macron l'a évoqué dans son allocution, mais il est évident que cet argent risque d'être fortement à servir fortement, évidemment, aux hôpitaux et encore une fois, soignants, soignantes, tous ceux qui sont intervenus, puisqu'on sait, une réforme de fond va certainement intervenir après cette période hors norme.
Alors Roland, on a aussi des questions qui nous parviennent sur le hashtag Radio Ouverte, hein, sur Twitter évidemment. On a Covoit Astérix, qui a manifestement de l'humour, qui nous dit « Si l'on est sans symptômes, au bout du confinement de 14 jours, pourra-t-on circuler librement et ou demander un certificat médical à notre médecin pour pouvoir circuler sans attestation, en respectant bien sûr les gestes barrières ?»
Mais non, c'est pas du tout prévu. Le confinement et les sorties dérogatoires le sont pour tout le monde. Personne, évidemment, infectée et non infectée. Et les personnes infectées, évidemment, doivent s'arranger pour ne plus sortir de chez elles et demander peut-être de l'aide à des proches. Mais même celles qui ne le sont pas et même celles qui auraient l'assurance de ne pas l'être pourraient être éventuellement infectées si elles sortaient. Donc, il ne faut surtout pas et donc réinfecter d'autres personnes. Donc, il faut absolument respecter. Tout le monde est soumis exactement la même règle, et même si on a l'assurance de ne pas être infecté, et si on ne fait pas partie du personnel réquisitionné, soignant et personnel médical ou activité, évidemment, aujourd'hui nécessaire aux besoins de la population, on ne doit sortir sous aucun autre prétexte que ceux qui sont prévus dans l'attestation dérogatoire.
Merci Roland pour vos lumières. On vous retrouve tout à l'heure, hein, 16h30, oui. Pour un Facebook Live sur Europe 1, c'est bien ça?
Oui, absolument. 16h30 à 17h, on répondra en direct avec Europe 1 sur Facebook, un Facebook Live. Je serai donc moi dans ma Normandie, moi aussi quasiment dans mon garage, pour répondre à tout le monde, à toutes les questions qui se posent aujourd'hui de nature évidemment juridique, que ce soit le droit du travail, le droit de la famille, droit de la consommation, droit bancaire, les voyages, enfin toutes les questions qui se posent parallèlement aujourd'hui à ce que tout le monde vit.
Oui, et puis on vous retrouve demain, évidemment, juste avant 14h. Oui, et je vous précise que l'équipe d'Europe 1 Studio a lancé le podcast Ma question coronavirus pour rassembler au même endroit et faire entendre au plus grand nombre toutes les réponses aux questions concrètes que vous posez. Vous pouvez évidemment le télécharger. Il y a déjà 50 000 écoutes, hein, donc c'est un beau succès pour ce podcast Europe 1. On vous invite évidemment à aller y mettre une oreille, vous y apprendrez sûrement des choses. Merci Roland, merci Elisabeth, à ça y est.
Merci, à demain
Raphaël.
On se
retrouve demain évidemment dès midi sur Europe 1 pour La France Bouge. Et pour le moment, eh bien, c'est l'heure de retrouver Christophe Ondelat.